Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, l'histoire de Patrick et de son destin de chaman, une nouvelle déviation.
On enregistre tout. Bon. Déjà au mur, tu as tout ce que tu peux voir au mur. Ce sont des cadeaux qui m'ont été offerts par les autres traditions du monde. Il est de coutume dans les pratiques traditionnelles chamaniques, c'est de s'offrir un objet qui a une portée symbolique. On appelle même ça un pouvoir. Là, c'est les Maoris. Comme tu vois là, ça c'est le sac de pouvoir des Maoris qu'on met sur le dos, qui est un sac qui est le sac que portent les hommes médecine. En dessous, tu as la peau d'un kangourou qui est portée par les aborigènes d'Australie. Et puis ça, c'est des objets de pouvoir multiples de différents chamans qui m'ont été remis. Ça serait un peu trop long. À chaque fois, ça a une signification. Comme toutes les plumes que tu vois au centre là, puisque au centre, il y a des totems. Là, par exemple, cette lance-là, elle a fait le tour en Amazonie péruvienne, les Oniquins ont fait le tour de tout leur peuple pour me l'apporter à moi en tant que chef coutumier du cercle de sagesse. Donc c'est vraiment très touchant, très émouvant. Puis les plumes du condor, des foulards du Népal aussi. Et puis l'arbre que tu vois là, c'est l'arbre qui m'a été remis par la présidente des chamans de Mongolie, qui nous a amené ça avec toutes les plantes et toutes les graines que l'on trouve dans les toundras là-bas, dans les steppes et les toundras.
Il y a toujours beaucoup d'objets dans le chamanisme.
Oui, parce que dans les pratiques traditionnelles chamaniques, on l'énergie, l'invisible, mon invisible, les énergies, on les densifie dans la matière. On les fait être. Quand on a une vision, quand on fait un voyage chamanique, par exemple, qu'on a une vision ou un rêve très fort, on va peindre, soit sur une toile, soit sur un objet chamanique, soit sur ses tenues, ce qui fait que les tenues chamaniques sont toujours très belles, très colorées. Mais ce n'est pas pour faire beau, même si c'est très joli. C'est parce que ça représente quelque chose. C'est-à-dire qu'on met dans la matière, on incarne ce qui s'est passé dans le monde spirituel. On crée une alliance, en fait, entre le monde visible et invisible. Tout petit, j'ai été un enfant solitaire, c'est-à-dire j'étais le fils aîné, mais mes seuls, ce qui fait que pendant des années, je vivais seul dans une époque où il n'y avait pas d'école maternelle ni rien, ce qui fait que j'étais dans la nature et j'avais une relation particulière avec tout, quoi. Je percevais toutes les choses dans la nature.
Par exemple quoi ?
Grande sensibilité, les arbres, les rivières, je sentais ce qu'on appelle les entités, les fées, ce qu'on appelle les fées. Je ne sais pas trouver les mots. Chaque arbre avait été habité. Pour moi, ce n'était pas du rêve ni rien, c'est une réalité. Et mon premier initiateur, on peut dire, c'est mes parents avaient un chien. Et le chien avait fait un trou sous le grillage et il passait sous le trou du grillage, il m'attendait de l'autre côté, il m'emmenait dans la forêt, il m'emmenait dans les bois. Et c'était mon premier initiateur, c'est le chien de mes parents à l'époque, qui s'appelait Choufti. Et donc, on partait au grand désespoir de mes parents parce que ils se demandaient où on était. Je partais des journées entières, des après-midi entières. J'ai même été puni pour ça. Et pour moi, les arbres, il y avait des arbres qui étaient profondément voilà, négatifs. Il y avait des entités. Je savais, j'avais une vision qui peut paraître très curieuse. On dirait d'un enfant, qu'est-ce qu'il est imaginatif. Non, j'avais une perception et j'ai toujours gardé une perception ultra sensible des choses. Voilà, c'est déjà ça. Dès que je suis devenu adolescent, j'écrivais des poèmes, beaucoup de poésie. J'étais très, très poète. Sans être retiré dans un coin, j'ai toujours été très social. J'aimais faire du sport, j'ai toujours été très copain. Je suis pas du tout... voilà, on peut être très sensible, très percevoir les choses et pas être comme ça dans son coin solitaire. J'étais pas du tout solitaire. J'étais spécial, j'ai toujours été spécial. Même à l'école, j'étais toujours à part. Et puis un jour, je me rappelle très bien, c'est près de la Baule, au Croisic. Je faisais la manche, j'écrivais mes poèmes à la craie sur le sol. J'avais trouvé que le meilleur moyen, c'était à l'époque, on tapait à la machine et on faisait pas des photocopies, mais on stéréotypait, et les gens donnaient une pièce et emmenaient un de mes poèmes. Et un jour, il y avait un couple avec un gars en maillot de corps, gros du bide, avec un peu patachon, quoi. Pas patachon, bidochon. Un peu la famille Bidochon, vous voyez, un peu comme ça. C'est pas de mépris de ma part, mais c'était un peu ça. Et il me regardait ironique, en riant, parce qu'évidemment, en se moquant, et il a pris un euro, ça n'existait pas l'euro, mais enfin une pièce. Il m'a regardé dans les yeux avec tout le mépris qui puisse être, et il a balancé la pièce. Il n'aimait pas ce que je représentais, ça c'est clair. J'ai beaucoup de gratitude pour ce monsieur, parce qu'à ce moment-là, j'ai dit « Ah ouais, tu me prends... » Alors c'est par la colère, hein, mais bon. Et j'ai eu mon idée, j'ai dit « Puisque c'est ça, espèce de connard, tu me prends pour un loc-du, t'es rien du tout, toi. Tu vas à l'usine, au bureau, enfin là, il y avait de la colère et du mépris, c'est pas bien, mais en attendant, j'ai été puisé cette force. J'ai dit « Moi, un jour... » c'est moi qui serai ton patron, puis toi, tu fermeras ta gueule et puis tu te mettras à quatre pattes. Enfin, c'est de la colère. Il m'avait humilié, en fait. Et je le remercie beaucoup parce que grâce à ça, je suis sorti de mes bagues. J'avais des bagues à tous les doigts. Je suis rentré à la maison et j'ai décidé de rentrer dans la société et j'ai décidé, je vais faire fortune. Mais comme un jeu. Comme, j'avais 17 ans, 18 ans. Je vais faire fortune. Et donc, j'ai pas fait fortune tout de suite, mais enfin, il y a eu un basculement. Alors, j'ai fait des études à la con, ça m'intéressait pas du tout. En 68, on s'est bien amusé, et voilà, c'était ça qui me plaisait. J'ai rencontré des gens magnifiques, et l'air, c'était super. Et puis après, j'en ai eu marre, et j'ai décidé de changer de monde. Je me suis engagé, et je suis parti dans l'armée. Je me suis engagé pas dans l'armée, mais j'ai devancé l'appel, puisqu'à l'époque, on était obligé de faire notre armée. Le fait de devancer l'appel nous donnait la possibilité d'aller où on voulait. On me l'avait dit, alors je l'ai fait. J'ai devancé l'appel de 3 mois, je crois, 4 mois. Suffisamment pour choisir. J'ai donc choisi l'armée de l'air et je suis parti en Outre-mer. Et on m'a muté à Madagascar. Et là, pendant un an, j'étais à Madagascar. C'était le rêve absolu. Parce que, hormis l'uniforme pendant un mois, là, pour faire les classes, quand je suis arrivé là-bas, il y avait une opportunité d'être animateur du club de vacances des militaires avec leurs femmes et leurs enfants dans une île à Nocibé. Je me suis porté volontaire pour faire cours, hein. Et donc j'ai été animateur au club de vacances des militaires de carrière, quoi, des professionnels, officiers, sous-off, leurs femmes et leurs enfants. Après, j'ai animé une émission de radio à Tananarive, parce que comme c'est l'aviation, tous les aviateurs là venaient de Djibouti, ils amenaient les nouveautés, donc j'avais une fois par semaine une émission de radio avec un copain et où on passait les dernières nouveautés musicales. Un planqué, quoi. J'avais compris que le système, soit on s'y opposait et il pouvait nous briser, soit on s'adaptait, on lui donnait quelques grains de riz pour qu'il se nourrisse et on profitait du système. Donc j'ai profité de ce système et j'ai trouvé que l'armée c'était formidable. Parce qu'en fait, je me suis amusé. Mais si je raconte ça, c'est parce que j'ai eu mes premières initiations en Afrique. Je me suis fait piquer par des fourmis volantes dans l'île de Nocibé. J'ai couru. Je suis allé voir la dame Coco. On disait que c'était une guérisseuse. Moi, je savais pas trop ce que c'était à l'époque. Et elle m'a mis de l'huile de coco. Enfin, je sais pas, elle m'a touché. C'est bizarre parce que j'allais mieux tout de suite. Donc, c'était pas l'huile de coco. Il y a de grandes chances que c'était ses capacités et son talent. Et elle m'a demandé, elle est venue, quelques jours après, elle m'a été me chercher. Et je me suis retrouvé dans une cérémonie africaine, malgache, que de femmes, que des femmes. J'étais le seul homme. Et je me demandais ce qui se passait. J'avais l'impression d'être dans un film. Et voilà, c'était une nuit entière presque. Et les femmes se mettaient en transe, se déshabillaient derrière un pagne. Et on les habillait en blanc quand elles, comme si elles changeaient d'identité. Enfin, c'est une cérémonie de guérison. Et c'est Madame, en fait, c'est Madame Coco, que tout le monde appelait Coco. C'était ce qu'on appellerait la femme chamane de ce village.
Mais pourquoi elle était revenue chercher ?
Et elle est venue me chercher, justement, je sais pas. Et elle m'a, et c'est là qu'elle m'a dit que je saurais un jour pourquoi. Alors aujourd'hui, je sais pourquoi. Et puis la deuxième initiation que j'ai eue, un peu plus tard, alors qui est moins drôle, j'ai été pris par deux gars là qui m'ont emmené dans une case à pilotis, alors pas au même endroit, là c'était près de Tananarive, près d'Ivat. Et bon, des gars, voilà. Et puis quand je me suis retrouvé dans la case, c'était la nuit, le soir, ils m'ont enfermé, enfin ils ont fermé la porte, et ils m'ont dit « on va te tuer ». Et là, j'ai eu la peur de ma vie, j'ai été initié à la peur. Ils ont fait des signes kabbalistiques sur le sol, ils ont allumé des bougies, ils ont sorti un poignard, ils ont fait des chants, ça y tournait. Et moi, petit à petit, alors j'ai vraiment maîtrisé ma peur, et il y avait une porte sur un balcon, c'est une case à pilotis, et j'avais reluqué ça derrière moi, mais il fallait pas qu'ils s'en rendent compte. Alors millimètre par millimètre, je bougeais mes pieds pour pas qu'ils le voient, et jusqu'à temps que j'allais me précipiter et sortir. Mais pour le faire, il fallait que ça se voit pas. Et il a fallu du temps. Je sais pas, ça a duré un siècle, ou une heure, j'en sais rien, mais long. Et là, j'ai traversé, j'ai été initié à la grande peur, quoi. Et en fait, j'ai sauté, j'ai couru, je crois que je cours encore, et puis bref, après, il m'est arrivé d'autres aventures. Et puis, par la suite, j'ai compris que si vraiment ils avaient voulu me tuer, ils auraient laissé cette porte fermée. Et puis, ils voyaient bien que je bouge, même si on me voit pas. J'étais beaucoup plus près de la fenêtre au bout d'un moment qu'au début. Donc, je pense que... et j'ai quand même un doute, mais j'ai pas de doute en fait. C'est que c'était un rituel de passage pour transgresser mes peurs, pour me faire toucher la grande peur qui est la peur de la mort. C'est un rituel de passage. Et puis après, j'en ai eu une autre avec le retournement des morts, où j'ai été invité, où là-bas, ils retournaient les morts dans des cérémonies incroyables. Et puis ensuite, avec le sacrifice du zébu, les zébus, c'est comme des veaux, enfin des vaches plutôt, avec des grandes cornes, là. Et ils les égorgent, et après, ils se badigeonnent de sang, donc je peux vous dire que ça m'a fait des drôles d'impression, tout ça. Alors ça n'a pas ma préférence, le sacrifice par le sang, mais enfin, je me suis retrouvé dans des situations incroyables où on venait me chercher tout le temps. Pas tout le monde, moi. Et en plus, blanc. C'est hallucinant. Il faut vraiment, on a l'impression que c'est un film. Que c'est pas la réalité. Ça a été ma réalité. Et en rentrant, oui, j'ai trouvé du travail. Et puis, Parly devenait d'ouvert. C'était le premier centre commercial en France. Et là, je vois un gars sympa, qui a mon âge, qui sentait la réussite, l'argent. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit, ben voilà, je suis représentant dans le vêtement. Ah bon? Je lui ai dit, mais c'est incroyable. Puis ouais, ça marche bien, tout ça. Il me dit, bah si tu veux, tiens, il cherche quelqu'un pour la Bretagne. C'était mon pays, la Bretagne, donc ça tombait bien. Ma terre de nourricière. J'y suis allé, m'ont pris, je suis parti. Ils y croyaient pas. Mais comme je suis tenace, alors j'étais parti avec une tente de camping. Mon père m'avait acheté une 4 chevaux d'occasion, à l'époque une petite voiture, avec mon petit réchaud à gaz pour manger. Mais je dormais dehors, enfin bon, vraiment, sans rien, quoi. Et puis voilà, les gens, je devais les toucher. Puis à l'époque, la collection était belle. J'ai vendu des vêtements. La semaine d'après, ça a recommencé. Une fois là, j'ai connu du monde. Après, je me suis retrouvé chez André Balzac, une grosse entreprise de costumes pour hommes, qui fabriquait des costumes pour Daniel Echter, en façonnier pour Daniel Echter. Il s'avère que chez Echter, après, il cherchait un gars pour un jeune pour assistant chef de produit, donc je me suis présenté, on m'a pris tout de suite, voilà. Mais vraiment, j'y connaissais rien, mais bon, je suis pas maladroit, Et fin de saison, j'avais vendu plus 30% que l'ancien, ils m'ont gardé. Et c'est comme ça que ma carrière allait démarrer. Là, j'ai connu chez Echter mes copains, qui après, bon, un copain qui était chef de produit, là, Echter enfant, il a monté un petit magasin à Boulogne de 10 mètres carrés pour vendre les fins de série dans Echter enfant. Ça marchait formidablement, les marchandises vendues à moitié prix, les solderies, quoi, mais d'une marque, ce qui est, à l'époque, il n'y en avait pas, c'était pas courant. Un représentant, Jacques Lefort, là, lui aussi a monté à Rennes, et puis moi, j'ai monté, pour la mère de mes enfants, un magasin à Saint-Germain-en-Laye, dans 10 mètres carrés aussi, 12 mètres carrés, enfin, dans une rue même pas commerçante, enfin, on n'avait pas de moyens. Et puis, à force, il n'y avait plus assez de soldes chez Echter, et puis bon. Donc, on a fabriqué, Patrick Hamel, mon associé, a commencé à fabriquer des produits qui étaient dans le même prix que la marchandise soldée, le même goût. Et petit à petit, voilà, 6 magasins. Moi, j'ai monté tous les magasins dans les Yvelines. Après, je me suis associé avec des amis à moi pour qu'ils montent des magasins dans d'autres centres commerciaux autour de Paris, Faubourg Saint-Honoré à Paris, Place du Marché Saint-Honoré, Vincennes, enfin, je vais pas vous dire, mais 10, 20, 15, j'ai monté une flopée de magasins Echter. Et après, Echter, excusez-moi, qui était devenu Jacadi entre-temps parce qu'il avait fallu trouver une marque commune. Il n'y avait aucun plan de marketing, aucun business plan comme aujourd'hui. Ça s'est fait de bout de ficelle, en fonction des situations. On travaillait beaucoup dans une ambiance de fraternité, de camaraderie. Et l'époque était joyeuse et on entreprenait, ça marchait, ça réussissait. On avait les astres étaient bien alignés pour nous et petit à petit on s'est retrouvé à la tête d'une entreprise puisque Jacadi dans le monde c'était 600 magasins quand même. Hein.
Oui c'est ça parce qu'au début c'était des petites solderies.
Mais c'est ça, c'est devenu une marque avec après c'est Anne Lefort qui est devenue la chef de produit. Anne Lefort était représentante enfant chez Echter. Donc c'est vraiment voilà comme ça. C'était bande de copains. Voilà, une bande de copains et j'ai participé à cette magnifique expérience. J'ai adoré ça. Bon, c'est 14 heures de travail par jour. On pense qu'à ça, on fait que ça. Et puis, j'en avais marre à la fin, c'est sûr. Mais en parallèle, j'ai été initié dans des ordres initiatiques multiples.
Comment on fait ces deux vies en même temps?
Oui,
en fait.
Oui, oui. Et bah oui, parce que je suis un être le mot est un peu pénible à utiliser, mais enfin spirituel. J'ai un élan spirituel et je peux pas m'en passer, quoi. Je veux dire. Et voilà comment je me suis retrouvé en parallèle à continuer mon cheminement spirituel. Et croyez-moi que c'était quelque chose aussi. Hein, les ordres initiatiques, hein, c'était pas. Je faisais pas ça en amateur à fond les manettes. Et puis est arrivé, j'ai vendu au bon moment tous mes magasins, j'ai tout vendu avec la mère de mes enfants, on a tout vendu. Et là, j'étais très riche, voilà. Très très riche, propriété dans le Luberon, hôtel particulier à Versailles, des belles bagnoles. Heureux, c'est pas ça qui me rendait heureux, mais enfin, ça rendait pas malheureux non plus. Hein. Ça, c'est ma première vie.
Il y a un moment de bascule.
Oui, il y a un moment de bascule. Moment de bascule, c'est que là, je commence à avoir l'ego, quoi, la banane, la grosse tête. C'est-à-dire, je suis persuadé que tout me réussit, quoi. Qu'il suffit. J'avais compris. D'ailleurs, je l'avais formulé. J'avais dit, ouais, j'ai compris. J'ai compris la mécanique, quoi. Et dans ce cas-là, avec mon argent, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai racheté une chaîne de magasins de meubles. Oui, c'était des magasins de salon, hommes salon. J'ai racheté des magasins crozatiers dans l'Ouest. Et là, c'était pas mon métier. Et puis, en parallèle, je faisais de la spéculation immobilière. J'achetais des bureaux, j'achetais des murs de boutique. Pas compliqué, parce que quand vous avez de l'argent à l'époque, les banques vous prêtaient plus que l'achat de. Si je, par exemple, j'achetais 100 francs, plus les frais 120, plus les travaux 180, 200, on me prêtait 200 euros, quoi. Je veux dire, j'avais même pas besoin de sortir un centime. Quand on est riche, l'argent va aux riches. Je vous le certifie, je vous le garantis, ça marche. J'ai après connu la pauvreté, là j'avais plus d'argent qui venait aux pauvres. Et puis, voilà, et puis la crise, l'immobilier, la chute, comme j'avais acheté tout en supercrédit, avec des locataires, il suffit que ça aille mal, chute de l'immobilier.
Donc, j'arrivais plus à suivre. J'étais obligé de payer de ma poche les remboursements. Globalement, je vais vous dire, quand on est capable de gagner beaucoup, on perd beaucoup. Quand on gagne peu, quand on perd peu. Tout à l'heure, en proportion. C'est un peu le casino, hein, les affaires. Hein. Et c'était un jeu, le casino. Et j'ai tout perdu. J'avais toujours mes engagements spirituels qui prenaient tout de plus en plus de place. Enfin, je peux le dire. Écoutez, je suis rentré en maçonnerie, en franc-maçonnerie. J'ai beaucoup étudié le symbolisme, les écrits, la théologie, la kabbale. J'ai été dans les degrés de perfection, ce qu'on appelle les degrés de perfection, au Suprême Conseil de France. Très, très investi et en même temps passionné par les pratiques traditionnelles. En même temps. Beaucoup de lectures, 1500 à 2000 livres sur la symbolique. Je dévorais les livres à l'époque. C'est incroyable. J'étais passionné. Je cherchais, j'ai fait beaucoup d'alchimie aussi. L'alchimie me passionnait. Et voilà. Alors, pour revenir à mon affaire de deuxième vie, ce qui est extraordinaire, je vous raconte une anecdote, et là, ça sera la limite. C'est que quand je vends mon hôtel particulier de Versailles, avec la mère de mes enfants, on sort du notaire, enfin avant de sortir du notaire, on a vendu à la casse parce que l'immobilier s'était effondré, avait perdu 50% de sa valeur. Et le notaire fait ses comptes, il me regarde, il me dit « Mais écoutez monsieur, c'est incroyable. » Donc il y avait l'argent que je devais à titre personnel, parce que j'étais caution sur un certain domaine. Il me dit « Entre la prix de vente et tout, au centime près, vous ne devez rien, mais je vous donne rien. » C'est-à-dire que j'aurais pu repartir dans ma nouvelle vie totalement endetté, ne pouvant plus rien faire. L'univers, finalement, m'a protégé et j'y ai vu comme un signe. C'est-à-dire que je repartais à zéro, mais à zéro. Je repartais pas à moins 250. Et ça, c'est précieux. J'ai compris que c'était précieux. M'étant séparé de ma mère, de mes enfants, et évidemment, tout arrive, je me suis retrouvé à la rue. Après avoir eu tout, je n'avais plus rien.
À la rue.
C'est-à-dire que j'aurais pu dormir dehors. Et là, j'ai redémarré avec ce que je savais. C'est-à-dire, je savais faire que ça, le métier du vêtement. Et là, j'ai eu l'idée géniale, vraiment, d'acheter des tissus de grand luxe, puisque j'étais dans un milieu assez bourgeois, aristocrate, et des tissus de luxe, de couture, en fin de série. Je fabriquais des tailleurs, et je les vendais en direct, comme Tupperware, dans les appartements, pour redémarrer. Et petit à petit, un magasin, j'ai pu monter un magasin à Versailles, à Auteuil, dans le 16e, un deuxième, un troisième. Enfin, je suis arrivé à 10 magasins en 2 ans et demi. Mais je n'avais plus le goût, en fait. Au bout de 2 ans, je commençais à moins bien de m'occuper de mes affaires. Et j'ai fait la formation, une formation inspirée par Stanislas Grof sur les mémoires antérieures et sur les matrices périnatales. Et je fais cette formation par le biais de Patrick Drouot. Et là, c'est une révélation, c'est-à-dire que d'un seul coup, je pars dans l'indicible, quoi. Tout ce travail de thérapie sur moi fait que voilà, ça prenait toute la place. Les magasins, je m'en m'intéressais plus tellement. C'était plus du tout mon univers. Je recevais dans l'arrière-boutique d'une boutique à Paris pour faire les régressions. Et là, patatrac. Dépôt de bilan, puisque je m'occupe moins de mes affaires, vraiment pas, quoi. Et là, je me retrouve sans rien, encore une fois, mais là, sans rien, vraiment sans rien. Et là, c'est la 4 années infernales où en fait, j'avais tout perdu, mais en croyant avoir tout perdu, j'avais tout gagné, c'est-à-dire que... Alors, c'était pas mes clientes, hein, mais c'était des personnes extérieures, mais ça se sait. Tu sais, si je te fais revivre une vie antérieure, par exemple, une mémoire antérieure, avec la méthode de Grof et de l'Institut Monroe, qui était une méthode particulière. Bon, je vais pas expliquer la méthode, mais après, ta copine vient. Bon, comme je faisais pas que ça, c'était dans mon arrière-boutique, mais petit à petit, ça prenait de plus en plus de place et de plus en plus de monde. Hein.
Ça se savait, quoi.
Mais voilà, c'est le bouche à oreille, si tu veux. Et puis, ça n'empêche que boum, patatrac, j'ai plus d'arrière-boutique, plus rien, puisque je dépose au bilan. Et là, et puis, le hasard de la vie fait, encore une fois, qu'un copain à moi avait un local, Gare du Nord. Et il me dit, écoute, Patrick, si ça t'arrange, je te le passe, tiens. Il y avait 15 mètres carrés dans une cour, là, 15-20 mètres carrés. Et je vais m'installer, mon cabinet, Gare du Nord, quoi. Et là...
Alors, il y avait écrit quoi sur la plaque
de... Il y avait le thérapeute, quoi. Mais il n'y avait même pas de plaque, hein. Les gens, Ils sonnaient parce qu'ils savaient, ils venaient chez moi, hein, c'était pas. Et je faisais des pratiques et chamaniques et avec tout ce que j'avais fait, j'étais une sorte de mix et de mélange de tout ce que j'avais fait. Je redémarrais, en fait, ça, c'est vraiment le démarrage de ma deuxième vie. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'un matin, ça, c'est quand même incroyable, ça va être le tournant de ma vie, arrive à 6h du matin un espèce de gars qui tape à la porte. Je suis pas réveillé, évidemment, je descends, je ouvre, et là, je vois un Américain avec un chapeau américain, puis un petit bolo là, américain, là, vraiment, avec un nez, un teint olivâtre, un nez d'Indien, amérindien. Il était arrivé en France, et il avait voulu connaître la tradition celte, et on lui a parlé de moi, et quand on lui avait parlé de moi, il a dit, c'est ce gars-là que je veux voir, et débarquer à l'improviste comme ça. Il me regarde dans ses yeux, il m'a transpercé, je me suis mis à trembler, je me souviens, j'avais une cheminée, j'étais au bord de la cheminée, et il m'a transmis mon premier pouvoir, qui est le pouvoir du loup. Je suis devenu un loup, vraiment. Et ça, c'est au bout d'un quart d'heure, je veux dire, je le connais pas, je sais pas comment il s'appelle. Alors, il était accompagné quand même d'un gars qui parlait français, parce que il parlait pas français. Et il m'a transmis ça, et il est rentré dans ma vie, et je suis devenu, je l'ai aidé, assisté, dans tout son travail, je le suivais, un apprenti à l'ancienne. Et c'était un grand chaman. C'est irracontable, on est dans le domaine de la transcendance. Et puis après, le pouvoir du loup, après, on se remet dans cette énergie du loup pour pouvoir aider, pratiquer, enfin voilà, c'est. Ça s'appelle un pouvoir, ce que les chamans se transmettent en eux, mais moi, à l'époque, je ne savais pas. Après, évidemment, j'en ai connu bien d'autres, encore même plus puissantes, mais celle-là, je n'oublierai pas, c'est que la première fois, on n'oublie jamais. Que ça soit bien ou mal, dans toute chose, on n'oublie jamais les premières fois. Je vous ai dit que moi, j'avais été initié dans les ordres. Donc, j'ai rencontré aussi les ordres druidiques, j'aurais dû vous dire ça aussi. Et c'est-à-dire que j'étais déjà initié dans de multiples ordres. C'est-à-dire, quand je vous parle de ça, j'ai déjà derrière moi un background non négligeable, hein. Je suis pas un gamin à l'époque, hein. Et j'ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences multiples. Et c'est pour ça qu'on me connaît un peu, ça y est, on commence à me connaître, hein. Je commence à exister. Et lui est venu, il a eu l'appel de venir me voir. C'est pas surprenant, si vous voulez. Ça peut être surprenant vu de l'extérieur, mais dans le monde dit chamanique, on s'échange toujours les pouvoirs. Mais lui était beaucoup plus élevé que moi, beaucoup plus avancé que moi. C'était un grand-père, comme on dit chez nous. Grand-père, c'est un degré d'accomplissement, hein. C'était un grand-père à l'époque. Moi, j'étais vraiment un apprenti, hein. Moi, si on m'avait demandé si je voulais l'être, la réponse était non. Mais toute ma vie m'a amené à ça et il y a un moment donné, je pouvais plus faire autrement, quoi. Mais après, j'ai été content d'entrer dans cette voie. J'ai pas refusé. Je sais pas, quand je vois des gens qui veulent être chaman, ça m'épate, moi, parce que comment on peut avoir envie d'être chaman? C'est quand même un chemin très difficile. Il faut vous dire que après le passage de Gutenberg, il m'est arrivé des aventures incroyables, quoi. Je veux dire, après qu'il m'ait libéré, si on peut dire, dans le sens où j'ai vécu une initiation qui a fait que après, je pouvais prendre mon envol tout seul. J'ai été initié à des multiples choses. Je vais te citer un exemple. Un jour, d'ailleurs, c'est irracontable, ça. Je sais pas pourquoi je le raconte parce que. On peut te prendre pour un fabulateur ou tellement c'est invraisemblable. Je rentre chez moi un soir, j'avais laissé comme d'habitude la fenêtre ouverte dans ma chambre et je rentre, mais c'est incroyable. La pièce était remplie de chauves-souris. Pas deux, ni trois, ni quatre, il y en avait 30, 40. Il faut dire aussi que ma maison était près d'une église. D'un clocher d'une petite église, et ça devait être un repère de chauves-souris, mais enfin jamais elles étaient venues. Qu'est-ce que je fais? Je vois ça, je dis, mais j'ai rien à faire. Alors je sais pas comment vous auriez réagi, vous peut-être fermez la porte et allez dormir ailleurs, ouvrez les fenêtres, après j'ai ouvert les fenêtres, c'est sûr, mais. Et ben je me suis dit, j'ai que ça à faire, allez, je vais me coucher, de toute façon ça changera rien. Donc je me suis couché. Et au début, alors je sentais les chauves-souris qui passaient à 5-10 centimètres de ma tête, là, ça fait drôle d'impression, hein. Et j'ai totalement lâché prise et je me suis endormi avec ces chauves-souris. Et la nuit, évidemment, j'ai rêvé des chauves-souris, et avec des, je vais pas vous raconter le rêve, mais qui était vraiment initiatique, quoi. Un peu comme le loup, si vous voulez, hein. Et le lendemain matin, évidemment, en me réveillant, il n'y avait plus une seule chauve-souris dans la pièce. Et je vous certifie, sur tout ce que j'ai de plus précieux au monde, mes enfants, si vous avez un doute, que c'était des vraies chauves-souris, que j'ai pas rêvé, que j'ai pas halluciné, que j'ai pas, je ne fume pas de joint, je suis pas addict à aucune de ces choses-là. Que des histoires comme ça. Une troisième fois, je me rappelle, il s'est mis à pleuvoir en plein soleil. Je recevais de la pluie sur moi, il pleuvait pas. Il y avait pas de nuages, c'était soleil. Et là, en présence de témoins, en présence de mon père et de ma mère. Voilà. Et ils ont senti. Et j'aurais dit, vous sentez? Il me dit, ouais, c'est incroyable. Voilà. Et je vivais une multitude de choses comme ça, avec des choses moins anecdotiques, plus profondes, des rêves à n'en plus finir, comme j'ai des enseignements, des transmissions. Si vous voulez, j'avais reçu l'initiation horizontale parmi les humains, à travers les lignées, et je recevais l'initiation verticale. Et c'est là que je rencontre, en forêt des Couves, le lien très puissant que j'allais avoir, et puisque j'allais devenir porteur de la lignée de Sauveta, je rencontre cette fameuse lignée en forêt des Couves. Et là, je reçois les enseignements, et après, on va me demander d'être porteur et gardien de cette lignée. Ce qui est très intéressant dans mon expérience, si vous voulez, en tout cas moi tel que je la vois, c'est que ça fait écho à toutes les expériences humaines. Depuis, je me suis occupé de milliers de personnes, j'ai des responsabilités importantes, je suis chef coutumier d'une association qui regroupe 268 représentants de traditions du monde, j'ai été à l'origine du festival du chamanisme, enfin bref, un investissement total. Je me suis baladé dans 60 pays dans le monde pour aller au-devant des traditions. Bref, imaginez que c'est un itinéraire quand même. Mais il paraît bien spectaculaire. Mais en fait, je me suis rendu compte avec ma vie fait écho à toutes les vies. Les gens m'ont tous racontent leur vie, les plus humbles comme les plus spectaculaires. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes 7 milliards sur cette planète et que tous, nous avons un scénario de vie qui est totalement adapté sur mesure à ce que nous devons vivre. Et qu'il n'y en a pas un qui est mieux, un destin qui est mieux ou moins bien que l'autre. Alors oui, d'être Alain Delon, c'est peut-être un peu plus valorisant pour les gens qui aiment les people, d'être pasteur pour ceux qui aiment les vaccins, d'être Macron quand on aime la politique, peut-être ça fait envie. Mais en réalité, que c'est drôle, parce qu'en fait, chacun a son expérience de vie qu'il doit vivre pour guérir. Parce que la sagesse celtique nous indique que on est sur terre pour guérir. Donc c'est une bonne nouvelle quand même. Monsieur le curé, quand j'étais jeune, il disait qu'on était sur terre pour expier le péché originel. C'est moins sympa, hein. C'est plus culpabilisant quand même. Et que finalement mon destin, moi, il a été quelquefois très difficile, parce que croyez-moi que dans ces 4 ans où j'ai été formé, où j'ai tout perdu, tout ce qui était de l'ordre matériel, je pensais tout perdre, alors que j'étais en train de tout gagner, mais je ne le savais pas. Et c'est là qu'effectivement, j'ai eu des pensées suicidaires. Et je me rappelle sur l'autoroute, une fois, j'ai lâché le volant, fermé les yeux, je me suis repris tout de suite parce que c'était pas mon heure, tellement la souffrance était grande, je me tapais la tête contre les murs, quelquefois de souffrance, parce que je me retrouvais dépouillé, mais archi dépouillé. Et il y en a qui arrivent à des résultats bien plus forts, bien plus loin encore que je puisse être aujourd'hui, pas du tout en souffrant. C'est chacun. Et d'autres vont avoir plus de souffrance. Tous les destins, arrêtons de nous plaindre, arrêtons d'envier le destin de quelqu'un d'autre. Nous avons tous un destin sur mesure pour nous faire avancer. 7 milliards d'habitants, 7 milliards de destins et de scénarios difficiles. Même à Hollywood, je vous assure qu'ils sont pas capables d'écrire le scénario de votre vie. Parce que ça paraît invraisemblable. Alors voilà ce que je veux dire. C'est que mon propre destin m'a donné une réponse à l'utilité de nos destins sur cette terre, quoi. Et de comprendre pourquoi j'étais là et pourquoi j'avais eu cette vie quelquefois magnifique et quelquefois terrible. Thank you.
Cet épisode a été concocté par Maïlys Détry pour Les Déviations. Commentez, écrivez-nous, partagez, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter le changement sous toutes ses formes. À très vite !